Vraiment, vraiment heureux de pouvoir apporter la parole ici et d'ajouter ma voix à cette nouvelle thématique qui a commencé il y a quelques semaines déjà, découvrir Jésus. Pasteur Ben l'a commencé il y a 2 semaines, Sophie l'a continué la semaine dernière. Et combien sont bénis par cette thématique à date? Est-ce qu'on peut applaudir toute l'équipe de communicateurs de Nouvelle Vie? On est bénis, on reçoit déjà plusieurs beaux témoignages de choses qui prennent place alors qu'on découvre Jésus durant toute cette thématique. Cet été, on s'attarde justement sur l'évangile de Jean pour découvrir des nouvelles facettes de l'identité de Jésus, de sa personne, de son œuvre, de sa mission. Et pour ça, on regarde justement à l'évangile de Jean qui est un évangile à part. Il y a 4 évangiles dans la Bible et l'évangile de Jean, il est vraiment différent que Matthieu, Marc et Luc. C'est vraiment un évangile personnel où on retrouve plein d'histoires qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et des rencontres, des miracles qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, alors qu'on est en plein été, c'est la saison des mariages, j'aimerais m'arrêter avec vous sur le premier miracle de Jésus. Vous savez, Jésus a accompli énormément de miracles durant toute sa vie. C'est d'ailleurs l'apôtre Jean qui dira que si on devait mettre à l'intérieur d'un livre tous les miracles que Jésus a accomplis tout au long de son ministère, ça ne pourrait même pas rentrer dans un livre. Il faut savoir quelque chose avec les miracles de Jésus, c'est que chaque miracle qu'il a accompli avait une signification profonde. À un tel point que Jean n'appellera même pas ça des miracles, il appelle ça des signes. Parce que pour lui, l'acte de puissance en lui-même est toujours moins important que la vérité qu'il nous révèle, qu'il nous communique sur la personne de Jésus, sur son œuvre, sur sa mission. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter avec vous sur le premier miracle de Jésus qui a lieu dans un mariage. Pour ceux qui ne savent pas, Jésus, il ne vivait pas dans une grotte à juste lire la parole, prier. Jésus était 100% homme, 100% Dieu et il vivait comme nous. Il allait à des fêtes, il allait à des mariages. Combien aiment les mariages ici? On aime les mariages, on aime bien s'habiller, bien manger, danser. Et Jésus était un bon vivant. Il allait au mariage également. Et le premier miracle se passe à un mariage. Et voici ce qui se passe. C'est dans le 2e chapitre de l'évangile de Jean. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Il faut savoir qu'au 1er siècle, les mariages ne duraient pas une journée comme aujourd'hui, ils duraient jusqu'à 1 semaine. Et tous ceux qui ont organisé des mariages disent « aïe aïe ». C'est de l'organisation, c'est de la job et c'est de l'argent. Donc les mariages pouvaient durer jusqu'à 1 semaine et à l'époque, s'ils avaient le malheur de manquer de vin, c'était la catastrophe. C'était vraiment la catastrophe et toute la réputation des mariés pour les années à venir était vraiment amputée. Et vraiment, c'est pour ça que Marie, à ce moment-là, elle voit la situation, c'est un mini-scandale, et elle va vers Jésus et dit, ok, juste pas faire de scandale là, mais il se passe quelque chose de grave, il n'y a plus de vin. Et voici ce que Jésus lui répond. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 100 litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, eux, étaient les seuls à le savoir, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fut Jésus. Le premier miracle de Jésus, le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, c'est de transformer l'eau en vin à un mariage pour que le party continue. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je m'attendais à quelque chose de différent pour le premier miracle de Jésus. Oui, quelque chose de plus utile, quelque chose de plus significatif. Je veux dire, oui, ça aurait été un scandale pour l'époque qui manque de vin, tout ça, mais ils auraient survécu. Puis un petit coup à l'orgueil, ça fait pas de mal de temps en temps. Mais là, tu sais, il y a des personnes qui ont des vrais problèmes. C'est le premier miracle de Jésus. C'est avec ça qu'il présente son œuvre. Je m'attendais à ce qu'il guérisse un malade, qu'il redonne la vue à un aveugle. Il y a des personnes qui ont des vrais problèmes. Pourquoi le Sauveur de l'humanité utiliserait son temps si précieux et ses capacités hors normes pour transformer de l'eau en vin, pour faire quelque chose de si, entre guillemets, banal, quotidien, juste pour pas que les mariés éprouvent de la honte à ce moment-là? Pourquoi? La réponse à cette question, c'est encore une fois parce que chaque miracle de Jésus avait une signification profonde. Et c'était pas seulement, c'était plus qu'un signe visible. Chaque signe visible était communiquait une réalité invisible que Jésus était en train de communiquer et était en train d'accomplir. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Comment vivre une vie abondante ?» Parce qu'une des choses que Jésus tenait absolument, absolument à démontrer lors de son premier miracle et se présentait avec ça au début de son ministère, c'est qu'il est venu pour apporter la joie, la vie abondante. Le vin dans la communauté juive à l'époque avait une importance particulière. L'Ancien Testament nous montre à de nombreuses reprises que le vin avec l'huile et le blé faisait vraiment partie des éléments essentiels à la vie quotidienne des Juifs. Et à chaque fois que dans l'Ancien Testament, l'abondance de vin est mentionnée, c'est toujours associé à la joie, au bonheur que Dieu promet à son peuple, notamment lors du banquet final qui aura lieu lorsqu'on sera tous au ciel avec Jésus. Parce que c'est l'assurance qu'on a en tant qu'enfant de Dieu, qu'un jour pour toujours, nous allons nous retrouver avec Dieu au ciel dans un monde sans souffrance, sans injustice, sans maladie, sans tristesse, sans peine, sans chagrin, un monde rempli de joie, de fête, d'amour, un jour où nous verrons Dieu face à face. Est-ce qu'on peut applaudir en signe de reconnaissance cette assurance-là, une assurance qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Et un des textes qui illustre le mieux cette vérité-là, que le vin, l'abondance de vin dans l'Ancien Testament témoigne justement de cette abondance de joie que Dieu promet à son peuple, se trouve en Ésaïe. Et c'est une prophétie justement que Jésus est en train de commencer à accomplir à Cana alors qu'il accomplit son premier miracle. Cette prophétie, c'est la suivante. Sur la montagne de Sion, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples un repas de viande grasse arrosée de bon vin. Un repas de viande tendre et grasse et de vin pur. Sur cette montagne, il enlèvera le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples. Le drap des morts qui couvre tous les pays. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. Dans tout le pays, il enlèvera la honte de son peuple. Voilà ce que le Seigneur a promis. Jésus est venu apporter la vie en abondance. L'abondance, ça veut dire plus que nécessaire. En d'autres termes, Jésus est venu t'apporter plus de joie que tu as besoin, plus de paix que tu as besoin, plus d'amour que tu as besoin, plus de tranquillité que tu as besoin, plus d'espoir que tu as besoin. Jésus est venu redonner un sourire sur le visage de ceux qui étaient dans la tristesse. Jésus est venu pour combler ceux qui se sentaient seuls. Jésus est venu redonner l'espoir à ceux qui étaient découragés, relever ceux qui étaient abattus. Jésus est venu apporter la vie en abondance. Est-ce que je peux entendre un amen la prière? C'est ce que Jésus est venu apporter. Une des fausses croyances qu'on peut avoir sur la foi chrétienne, c'est que Dieu se préoccupe seulement des affaires dites spirituelles. Est-ce que je lis ma Bible? Est-ce que je prie? Est-ce que je vais à l'église? Est-ce que je partage ma foi? Alors que l'intérêt de Jésus pour nous va bien au-delà. Son amour pour nous va bien au-delà. Il se préoccupe de nous. Il se préoccupe de notre personne, comment on se sent, comment est-ce qu'on traverse nos journées. Est-ce que ce miracle témoigne ce que Jésus voulait communiquer en partant, c'est qu'il est intéressé par les choses que même pour certains d'entre eux, les gens pourraient penser que pour un grand Dieu, c'est insignifiant de se préoccuper d'un vin à mariage, mais Jésus voulait nous communiquer qu'il se préoccupe du quotidien, des choses les plus banales de ta vie, des plus petits détails de ta vie. Que tu peux aller vers lui pour tous tes besoins, pour tes grands besoins, mais aussi pour les besoins de la vie quotidienne, parce qu'il t'aime tellement que tout ce qui te préoccupe, le préoccupe. Combien de parents ici savent que, même si par amour pour votre enfant, même si à un moment donné il se préoccupe, il y a quelque chose qui le trouble, peu importe à quel point cette chose-là peut être insignifiante, parce que vous l'aimez, ça va vous troubler aussi. Moi, je n'ai pas encore d'enfants, mais j'ai quelques neveux et nièces. Puis, il y a une photo qui va apparaître à l'écran. Ça, c'est ma nièce Kélia. Oui, elle est magnifique, je sais. Je suis totalement biaisé par... Mais c'est ma nièce. Puis, ma nièce, elle a 6 ans et c'est ma première nièce. On est beaucoup de frères et sœurs dans la famille. Et c'est la première fois qu'on avait une nièce. Donc, c'était vraiment la chouchou, la star de la famille. Okay, à chaque fois qu'elle rentrait dans une pièce, toute l'attention était dirigée par... vers elle, on lui a offert plein de cadeaux, on l'a couvert d'amour, c'était la première. Combien de parents qui ont eu plusieurs enfants savent qu'il y a toujours moins de cadeaux de la famille, de l'entourage, au bout du deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Nous, on ne fait pas exception à ça, on a tout misé sur Kélia. On a mis tous les cadeaux sur Kélia, on l'a couvert d'amour, tout ça. Puis, à un moment donné, je me souviendrai toujours, alors qu'elle commençait à la garderie, côtoyer d'autres enfants, je me souviendrai toujours à un moment donné, elle rentre, puis je la sens, je la vois un peu plus triste. D'habitude, on l'appelle la tornade parce qu'elle court partout, toujours le sourire. Puis là, elle était toute triste, tout ça. Et là, j'ai appris que Jade, son amie à l'école, à la garderie, avait été méchante avec elle. Là, dans ma tête, c'était « wow ». Premièrement, comment est-ce qu'on peut être méchant envers un être aussi magnifique? Là, je suis totalement biaisé. Mais deuxièmement, je me suis posé la question, je me suis dit « ok, mais j'ai vraiment cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle t'a fait et tout ça ». Maintenant, on s'entend qu'à cet âge-là, être méchant avec quelqu'un, ça voulait tout simplement dire que Jade n'avait tout simplement pas voulu jouer avec elle. C'est rien, c'est insignifiant. Mais pour un oncle gaga comme moi, c'était la fin du monde. Et laissez-moi vous dire que l'amour que Dieu vous porte est encore plus passionné que ça. J'aimerais vous dire que peu importe à quel point des fois les choses peuvent être quotidiennes, peuvent être difficiles, Dieu se préoccupe de tout ce qui vous préoccupe. Tout ce qui vous préoccupe, il a un amour passionné pour chacun d'entre nous, ce qui fait qu'on peut aller vers lui pour les besoins les plus petits. Parce que tel un père aimant, il veut tout savoir de nous. Maintenant, combien savent que lorsqu'on va vers Dieu pour nos besoins, alors qu'on prie, qu'on lui demande des choses, ses réponses ne sont pas toujours évidentes. Ces réponses ne sont pas toujours évidentes. Et c'est le premier point que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. Comment vivre une vie abondante? Premièrement, en acceptant son timing. À plusieurs reprises dans les évangiles, moi, il m'arrive de voir Jésus répondre à des situations, à des besoins, de manière assez énigmatique. Et de me demander pourquoi Jésus n'est pas plus clair. Moi, je suis quelqu'un de très cartésien. J'aime quand les choses sont claires, quand okay, c'est clair, c'est limpide, c'est soit noir, soit blanc. Et Jésus, j'ai remarqué dans les évangiles et même dans ma vie personnelle que des fois, j'ai l'impression qu'il aime bien répondre de manière énigmatique ou même de nous faire patienter pour des raisons qu'on ignore. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce texte-là. Marie constate qu'il y a un problème de vin, il y a un vrai problème qui est légitime. Elle va vers Jésus et voici ce qu'elle lui dit. Elle lui fait part et voici ce que Jésus lui répond. « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Déjà, il l'appelle « femme ». Et avant que toutes les mères de famille bondissent sur leurs chaises, je tiens à vous préciser que l'expression « femme » dans la langue originale n'était pas aussi impolie qu'en français. Okay, moi, si j'avais utilisé cette expression-là pour parler de ma mère à mon adolescence, je ne serais pas devant vous en ce moment. Ça, je préfère vous le dire. Mais dans la langue grecque, c'était un signe de respect. Mais Jésus était quand même en train de dire qu'il était quand même en train de mettre une distance entre sa mère et elle et en train de dire « Écoute, là, je suis de plus en plus en train de rentrer dans mon rôle de Messie. Et le timing qui est important, ce n'est pas le tien, c'est celui de mon Père Céleste. » Maintenant, mettez-vous à la place de Marie. Ça a tellement dû être difficile pour elle de recevoir ça. Elle qui l'a porté pendant 9 mois, qui a appris à parler, à marcher, qui lui a soigné ses plaies lorsqu'il se blessait. Ça aurait pu tellement être facile pour elle de se frustrer, de dire « Comment ça, Jésus? Comment ça, ce n'est pas le moment? Je te fais part d'un vrai problème, d'un problème qui est légitime. Je suis ta mère quand même, je mérite plus d'explications que ça. » Et ça pourrait tellement être une tentation dans notre vie de tous les jours, à nous en tant qu'enfants de Dieu, face à nos demandes qu'on fait à Dieu et pour lesquelles on ne voit pas de réponse. Et peut-être que tu es rentré dans ce lieu ce matin, et si tu es honnête avec toi-même, tu as une petite frustration par rapport à Dieu. Tu as une colère ou juste un découragement de dire « je ne comprends pas, ça fait des années, ça fait des mois que je prie pour telle situation, pour une situation professionnelle, pour une situation familiale, où tu aspires peut-être à une relation, où il y a quelqu'un de ta famille qui est malade, ou toi-même tu es malade, tu pries pour des choses et rien ne semble arriver. » De dire « Seigneur, est-ce que tu te préoccupes de moi? Est-ce que tu te préoccupes de ce que je vis, des difficultés, des épreuves que je vis? Je te fais part de vrais problèmes et j'ai l'impression qu'il n'y a aucune réponse. » Et parfois, ce qui est encore pire qu'un nom de Dieu à une de nos prières, c'est lorsqu'on ne comprend pas ce qu'il veut nous communiquer. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un, tu cherches la volonté de Dieu pour une décision de ta vie, tu sais pas ce que Dieu veut te dire, tu ne comprends pas ce que Dieu veut te dire. Est-ce qu'il faut que j'y aille? Est-ce qu'il ne faut pas que j'y aille? Est-ce qu'il faut que j'attende? Et c'est un peu comme dans ce texte, j'ai vraiment l'impression, et je suis convaincu que Marie, elle ne comprend pas ce que Jésus veut dire. Parce que Jésus, quand il dit « ce n'est pas mon heure », il fait référence au miracle qu'il s'apprête à accomplir, qui vont le mener à la crucifixion et ensuite à la résurrection qui va le pousser à aller dans sa gloire. Mais à ce moment-là, Marie, là, elle n'a aucune idée que Jésus va mourir sur une croix. Elle sait que c'est le Fils de Dieu, elle sait que c'est le Messie, mais il lui manque des informations, il lui manque des détails. Et face à cette incompréhension, sa réaction me fascine. Au lieu de se frustrer, elle regarde les serviteurs, elle leur dit « Guys, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. J'ai pas tout compris ce qu'il vient de me dire, il a parlé d'une heure, je sais pas de quelle heure il parle, mais faites tout ce qu'il vous dira. Je sais pas s'il va répondre favorablement ou défavorablement à ma demande, je sais pas, et s'il répond favorablement, je sais pas quand ni comment, mais s'il y a une chose que je sais, c'est que s'il y a quelqu'un qui peut régler cette situation-là, c'est lui. » S'il y a quelqu'un qui peut régler cette situation, j'ai pas tout compris, je comprends pas tout en ce moment, mais je sais que s'il y a quelqu'un qui peut régler cette situation-là, c'est lui. Parce que Marie savait qui était ce Jésus. Que ce Jésus qu'elle ne comprenait pas sur le moment, elle savait que c'était pas juste un fils lambda. Elle savait que c'était le Fils de Dieu. Elle se souvenait de sa naissance miraculeuse. Elle se souvenait des prophéties que l'ange Gabriel avait fait. Elle avait vécu et expérimenté sa vie parfaite et sans péché. Elle savait que s'il y avait quelqu'un qui pouvait régler la situation, c'était lui. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Peut-être t'es rentré dans ce lieu découragé, t'as l'impression que Dieu t'a oublié. J'aimerais te rappeler qui est ce Jésus. J'aimerais te rappeler que ce Jésus-là, il t'aime. Il se préoccupe même des choses les plus banales de ton existence. La parole de Dieu nous dit qu'il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Alors s'il se préoccupe des choses banales de ton existence, à combien plus forte raison tu peux lui faire confiance pour les épreuves, pour les difficultés, pour les délais que tu vis? Dieu ne t'a pas oublié. Peut-être que tu ne comprends pas les circonstances de ta vie en ce moment, mais j'aimerais te dire que ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Continue à espérer en Dieu parce qu'il n'a pas dit son dernier mot dans ta situation. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin à la prairie? Dieu est en contrôle de toutes choses. Dieu est en contrôle de toutes choses. J'aime beaucoup cette citation du pasteur Craig Rochelle qui nous dit ceci. Abandonne le passé que tu ne peux pas changer et fais confiance à Dieu pour le futur que tu ne peux pas contrôler. Il y a tellement un combat dans nos pensées où parfois juste le passé nous empêche d'avancer et le futur, même la crainte du futur nous paralyse. Mais j'aimerais rappeler à quelqu'un que si Jésus a laissé son sang couler à la croix pour qu'un jour le vin coule à flot au ciel, ce n'est pas pour t'abandonner aujourd'hui. Ce n'est pas pour t'abandonner aujourd'hui. Fais confiance à son timing, il est en contrôle de toutes choses. Comment avoir la vie en abondance? Premièrement, accepte son timing et deuxièmement, reconnais ton besoin. Parce que si ce miracle nous fait découvrir que Jésus se préoccupe des choses les plus quotidiennes de nos vies, il y a aussi une signification encore plus profonde que ça. Parce que la pénurie de vin, à l'époque, dans ce mariage, représentait l'état du peuple Israël, du peuple d'Israël que Dieu avait choisi pour faire une alliance avec lui. Ça représentait le vide spirituel dans lequel ils étaient. Parce que les vases que Jésus demande aux serviteurs de remplir, ce n'est pas n'importe quel vase, c'était des vases de purification. Pour obéir à la loi de l'Ancien Testament, les Juifs, avant chaque repas, prenaient le temps de soigneusement se laver les mains. Et ils ne le faisaient pas dans n'importe quelle peau, ils les faisaient dans les pots en pierre afin que ces pots-là et que l'eau dans laquelle ils purifient leurs mains ne devienne pas impure. Ils pensaient que ces pots-là, contrairement aux pots traditionnels, ne pouvaient pas devenir impurs. Et le chiffre 6 aussi n'est pas anodin non plus. Le chiffre 6, dans la culture juive de l'époque, représentait l'insuffisance, l'incomplétude, quelque chose qui n'est pas complet, quelque chose qui est imparfait, en opposition au chiffre 7, qui est la plénitude, qui est le chiffre de la perfection. Et Jésus, en disant aux serviteurs d'aller remplir ces 6 vases-là, ce qu'il est en train d'annoncer, il est en train d'annoncer la fin de l'Ancienne Alliance. Il est en train de mettre en avant l'insuffisance des efforts religieux du peuple d'Israël pour satisfaire Dieu. Il est en train de dire, vos pratiques religieuses, c'est bien, mais elles sont insuffisantes. Et encore plus, il est en train de leur dire que ces pratiques religieuses-là, ce ne sont pas c'est cette religiosité-là qui va vous donner la vie. Moi seul peut vous donner la vie. Il y a seulement moi qui peux combler votre vide. Ce n'est pas la religiosité, c'est seulement moi. Et encore aujourd'hui, en 2022, plus que jamais, nous avons besoin de Jésus. Encore aujourd'hui, en 2022, nous avons tous, sans exception, un vide à l'intérieur de nous que seul Jésus peut combler. Mais face à ce vide-là, nous pouvons avoir différentes réactions. Moi, pendant quelques années, j'ai côtoyé un ami à moi qui avait une voiture, mais vraiment, vraiment vieille. Ok, il y avait un surnom à cette voiture-là, on l'appelait la poubelle. Ok, c'était vraiment, vraiment vieille. Pour vous donner une idée, là, c'est le genre de voiture où lorsque tu rentres dedans pour aller à une destination, tu n'as aucune idée si tu vas finir en vie à la fin du trajet. J'exagère à peine. Cette voiture-là était vraiment vieille. Puis à chaque fois qu'on rentrait dans cette voiture-là, il y avait des problèmes de moteur. Le moteur faisait des bruits bizarres. À chaque virage, on a l'impression qu'il y avait des pièces essentielles qui prenaient le bord. C'était vraiment inquiétant. Puis pour ceux qui se demandent pourquoi vous allez dans sa voiture, c'était le seul qui avait le permis une voiture à cette époque-là. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'étais en voiture avec lui sur l'autoroute. Et là, comme d'habitude, son moteur se met à faire un bruit bizarre, inquiétant. Et là, je le regarde, puis il se retourne vers moi. Et là, il commence à me regarder avec un sourire et il me dit avec une fierté déconcertante, il me dit, Thomas, tu sais, cette voiture-là, je la connais. Je la connais par cœur. Et lorsque mon moteur fait un bruit bizarre, je sais qu'il est temps. Je sais qu'il est temps. Pas d'aller au garage, mais de mettre la musique plus fort pour masquer le bruit. Je ne sais pas s'il y en a qui adaptent cette stratégie-là. Par pitié, ne le faites pas. La stratégie de mon ami face à ses problèmes de moteur, c'est de faire comme si de rien n'était. D'augmenter le volume de la musique par peur, justement, pour nier le fait qu'il va falloir qu'il aille au garage et qu'il paye une grande facture. Et est-ce que ça pourrait être nous, ça, des fois ? Que face au vide intérieur qu'on vit dans nos vies, face au manque de la présence de Dieu dans nos vies, face à la confusion, face aux questions existentielles non répondues, face au malaise, à l'incertitude, à nos manquements, au lieu d'aller vers Dieu, les confier avec authenticité, avec humilité, on augmente le volume de nos vies pour masquer ce bruit-là. Plus d'activités, plus de divertissements, plus de projets, plus d'heures au travail, plus d'activités, plus, tout pour ne pas y penser et affronter le fait que si on est honnête et transparent avec nous et qu'on arrête le flot incessant de notre vie pendant un instant, on réalise à quel point il y a quelque chose qui cloche à l'intérieur de notre cœur, qu'il y a un vide dans nos cœurs. Et bien souvent, une des raisons qui nous pousse à avoir peur justement d'affronter ça, c'est justement la peur. La peur de, alors que je vais aller devant Dieu, il va me demander de me séparer de quelque chose auquel je suis attaché. Parfois, c'est juste la peur de reconnaître que je suis vraiment dans la mauvaise direction, puis il y a vraiment beaucoup de choses à changer. Mais j'aimerais vous dire que pour expérimenter cette joie, la vie abondante que Jésus a pour nous, nous n'avons pas le choix de passer tous et chacun par l'étape douloureuse de mourir à nous-mêmes, de réaliser que Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de changer. Parce que tu ne peux pas changer ce que tu ne confrontes pas. Pour être rempli, tu as premièrement besoin de réaliser à quel point tu es vide. L'une des raisons parfois pour laquelle nous pouvons stagner dans notre relation avec Dieu, c'est qu'on ne se permet pas cette authenticité, cette vulnérabilité-là devant Dieu, de dire « Seigneur, vois si je suis sur une mauvaise voie et viens pointer dans ma vie s'il y a quoi que ce soit qui te déplaît en ce moment dans ma vie. » Pourtant, la profondeur de notre relation avec Dieu est toujours proportionnelle à la profondeur à laquelle on réalise à quel point on a besoin de lui. J'aime beaucoup ce que l'auteur et théologien Dan Ortlund a dit. Il a dit ceci. « Je n'ai jamais rencontré un chrétien mature qui n'avait pas un sens profond de son insuffisance. Pour avancer avec Dieu, nous avons premièrement besoin de réaliser à quel point nous sommes dépendants de lui, beaucoup plus dépendants qu'on pense de son pardon et de sa grâce. » Et Jésus, à un moment donné, dans les évangiles, illustrera cette vérité avec une histoire dont lui seul a le secret. Jésus aimait parler en parabole, aimait raconter des histoires. Et à un moment donné, pour expliquer à quel point on a besoin de réaliser ça, il explique cette histoire d'un homme qui rembourse la dette de deux personnes. Et l'histoire, c'est la suivante. Un créancier avait deux débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leur dette. « Lequel des deux l'aimera le plus ?» Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Histoire toute simple. Jésus dit, il y a un homme qui rembourse deux personnes. Une personne lui rembourse 500 pièces d'argent, l'autre personne 50. À votre avis, lequel des deux va être le plus reconnaissant ? Lequel des deux va encore plus aimer celui à qui il a remboursé la dette ? Bien sûr, c'est celui qui s'est fait rembourser une dette de 500 parce qu'il a 450 raisons de plus d'aimer celui qui a remboursé la dette. Et le point de cette parabole-là, c'est que nous sommes tous ceux qui se sont fait rembourser une dette de 500 pièces d'argent. Mais avec le temps, parfois nous pouvons réfléchir, nous comporter comme si Dieu nous avait remboursé seulement 50 pièces d'argent. Parfois, là, une des choses qui fait que notre amour pour Dieu s'essouffle, c'est qu'on oublie, on perd graduellement la notion d'à quel point Jésus est venu nous chercher loin. On oublie à quel point la dette que Jésus a payée à la croix pour nous est grande. On oublie à quel point on voulait rien savoir de Dieu, on était destiné à la mort, il nous a fait passer de la mort à la vie et graduellement on perd la notion de à quel point Jésus a accompli de grandes choses pour nous. Et c'est pour ça que Jésus nous donne une invitation ce matin, à venir à lui avec authenticité et de reconnaître notre besoin de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être renouvelé par toi, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de te connaître plus. » Parce que mes amis, Dieu a infiniment plus pour chacun d'entre vous dans la saison dans laquelle vous êtes. Et c'est mon dernier point ce matin. Comment vivre une vie abondante ? Premièrement, accepte son timing. Deuxièmement, reconnais ton besoin. Et troisièmement, rejette le statu quo. Dans notre texte, l'organisateur du repas est surpris. Il est surpris parce que le vin qu'il goûte à la fin du mariage, à la fin de la soirée, est encore meilleur que celui qu'il a goûté au début du mariage. Et il est surpris parce que, normalement, c'est totalement l'inverse. Notre société ne fonctionne pas comme ça. Notre société fonctionne en disant, on montre ce qu'on a de meilleur au début, en avant, et ce qu'on a de moins bon, nos défauts, on essaye de les cacher pour que jamais personne les découvre, ou du moins le plus tard possible. Ok, Okay, moi, ça m'arrive parfois d'inviter des gens à souper chez moi. Et des fois, je n'ai pas le temps de faire le ménage de tout l'appartement. Bien que mon appartement soit assez petit, des fois, je n'ai pas le temps de faire le ménage de tout l'appartement. Et dans ces cas-là, j'ai toujours une salle que je sais que les invités ne vont pas aller, qui vont faire office de dépotoir pour la soirée. Comment ? Je sais qu'il y en a qui sont en train de me juger, mais laissez-moi pas tout seul. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont utilisé cette stratégie ? Ok, on est à l'église, on se confesse. Les invités vont rentrer, le salon est clean, la cuisine est clean, la salle à manger est clean, la salle de bain est clean, mais s'ils ont le malheur de rentrer dans ma chambre, c'est la folie. Ils savent que ma réputation va être ruinée à jamais. Et c'est vrai ça dans tous les aspects de notre vie. Par exemple, je vais m'adresser aux couples en ce moment. Est-ce qu'il y a des couples dans la salle ? Il y en a quelques-uns. Ok. Lors de votre première date, vous n'êtes pas venu avec votre pire tenue, avec votre pire attitude, votre pire caractère. Au contraire, vous vous êtes fait beau, vous vous êtes fait belle, vous êtes mis sur votre 31, apprêté, maquillé. Vous êtes venu avec votre bonne humeur, votre bonne attitude. Vous avez usé d'humour, de galanterie, messieurs, de générosité en payant la facture, du moins j'espère. Vous avez montré votre meilleur. Mais combien savent qu'un couple, la solidité d'un couple ne dépend pas du premier date et vient après lorsqu'on découvre les défauts, les faiblesses, les manquements. Parce que peu importe à quel point une personne, lors du premier rendez-vous, au premier abord, peut sembler parfaite, il va toujours venir un moment où on va réaliser qu'elle a quelques petits défauts quand même. Et c'est ça la beauté du mariage. C'est d'apprendre à aimer malgré, avec les défauts, avec les faiblesses. Ce que je peux entendre amène à ça. Mais ce texte nous dit que pour Dieu, c'est totalement différent. Parce que Dieu, lui, il est parfait. Il n'a pas besoin d'atténuer ses défauts, d'essayer de tasser ses défauts et de nous montrer juste son meilleur au début de notre relation avec lui, parce qu'il n'a pas de défauts. Ce qui fait que plus nous allons apprendre à le connaître, plus nous allons découvrir la grandeur de son amour, de sa grâce, de sa patience, de sa justice, de sa miséricorde, de sa fidélité. Plus nous allons découvrir et plus nous allons passer du temps avec lui, c'est impossible qu'on soit déçu. En fait, la seule chose qui peut arriver alors qu'on s'approche de Dieu et qu'on marche avec lui année après année, c'est que notre amour pour lui grandisse. C'est que notre émerveillement face à qui il est, face à sa perfection, grandisse. Le vin qui est meilleur à la fin qu'au début est une image de ce qui est censé être notre vie chrétienne. J'aimerais m'adresser à ceux qui marchent avec le Seigneur depuis plusieurs années. J'aimerais vous dire que ce texte nous enseigne pas que le meilleur de ta vie chrétienne était lors de tes premières années alors que tu as donné ta vie au Seigneur. T'es passionné, t'étais zélé, puis aujourd'hui tu regardes ces moments-là avec nostalgie de dire ça c'était le bon temps là, quand je venais de rencontrer Dieu là j'étais en feu pour lui, puis aujourd'hui non. Ce texte nous montre que le meilleur de ta relation avec Jésus est toujours censé être devant toi. Que peu importe dans quelle saison de ta vie tu es en ce moment, que tu aies 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, Dieu veut te faire découvrir encore plus en profondeur les profondeurs de son amour, de sa grâce, de sa passion. Jésus a encore plus pour toi. Ne te contente pas du vin d'hier alors que Jésus a un vin encore meilleur pour toi aujourd'hui. Ses bontés pour toi ne sont pas épuisées. Est-ce que je peux entendre un amen, la prairie ? Dieu a encore plus pour nous dans chaque saison de nos vies. Dans chaque saison de nos vies, Dieu a infiniment plus pour nous. Et face à cette réalité-là, une des choses, un des risques, genre ça fait des années qu'on marche avec Dieu, c'est à un moment donné de comme s'endormir et s'assoupir spirituellement et de tomber dans une routine où on n'attend plus rien de nouveau. Je me souviens à un moment donné, j'étais tout jeune chrétien, je venais de donner ma vie au Seigneur, j'avais 17, 18 ans. J'avais une discussion à un moment donné avec un collègue de travail qui, lui, ça faisait plus de 20 ans qu'il marchait avec le Seigneur. Puis j'étais en feu, j'étais passionné pour Dieu, je me posais plein de questions, je lisais des livres, tout ça. Puis à un moment donné, je me souviens avoir une discussion avec lui et de lui poser la question, en 20 ans de vie chrétienne, là, c'est quoi les choses que t'as, sur lesquelles tu as le plus progressé? C'est quoi les choses que Dieu t'a révélées? C'est quoi les choses que Dieu t'a appris? Et puis là, je vois qu'il met du temps à me répondre. Il met du temps à me répondre, puis... Au bout d'un moment, il finit par me répondre, il me regarde dans les yeux, tout, il me dit, Thomas, tu sais, je te vois aller là, puis ça me rappelle des bons souvenirs, là. Ça me rappelle là quand j'étais en feu pour Dieu, là, les premières années de vie chrétienne. Moi aussi, je m'en souviens, j'avais des rêves pour Dieu. Je me disais, c'est fou comment Dieu va changer mon caractère, va me faire accomplir des belles choses. Waouh, Dieu va vraiment m'aider à m'accomplir, puis à accomplir des belles choses pour lui. Mais tu sais, j'ai réalisé avec le temps qu'il n'y a pas tant de choses que ça qui changent. Je réalise avec le temps qu'il n'y a pas tant de choses que ça à découvrir, puis tu fais rapidement le tour. Et je me souviens que malgré que j'étais très immature et très jeune à cette époque-là, à ce moment-là, j'ai comme un frémissement de dire, J'avais tellement de peine pour lui de me dire, il est tellement passé à côté de choses que Dieu voulait lui révéler. Tellement passé à côté de choses que Dieu voulait accomplir à travers lui. Mais à cause d'un manque de renouveau dans sa vie spirituelle, il a manqué ça. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que dans la foi chrétienne, lorsque tu arrêtes de grandir, tu commences à mourir à petit feu. Ta foi commence à mourir à petit feu. Comme une plante. Lorsqu'elle arrête de grandir, c'est le début de la fin. Comme lorsqu'on est sur un vélo, qu'on arrête de pédaler et d'avancer, il n'est pas long avant qu'on commence à perdre l'équilibre. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de statu quo. Soit on avance, soit on recule. Soit on avance, soit on recule. Ça me fait tellement la peine pour lui, me dirais. Quelqu'un a dit, il n'y a pas de croissance sans changement et il n'y a pas de changement sans abandon. Et c'est pour ça que le quotidien de celui qui marche avec Dieu année après année doit être marqué par des changements. Par de dire, Seigneur, je veux abandonner des choses année après année. C'est quand la dernière fois que tu as abandonné quelque chose? Que suite à une conviction de la part de Dieu, une conviction de la part de Dieu, suite à un message ou un passage que tu as lu dans la Bible, tu as changé un de tes comportements, une de tes habitudes qui était profondément ancrée. Jésus, dans ce premier miracle, aux noces de Cana, est venu annoncer qu'il est venu tout réformer, amener un changement radical. Permets-tu encore à Dieu de venir changer ta vie, de venir changer les choses? C'est Einstein qui disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à des résultats différents. Un peu comme ce directeur d'école qui cherchait à combler un poste en administration. Il y a une personne de son staff qui a démissionné, puis il cherchait à combler ce poste-là. Donc sa réaction logique, c'était de regarder parmi ses employés, puis d'étudier les profils, d'étudier où ils en sont. Et il étudie les profils, les capacités, l'expérience de tous ses employés. Puis il en vient à un moment donné à choisir une personne. Il choisit un enseignant, lui, ça fait 10 ans qu'il travaille pour cette école-là. Et là, tout le bureau se réjouit. Ils vont le féliciter. Eh, bravo pour ta promotion, félicitations. Tout le monde est content, tout le monde, sauf une personne. Sauf une personne, et cette personne-là, c'est un enseignant, lui, ça fait 25 ans qu'il est là. 25 ans qu'il enseigne, puis il est profondément vexé et frustré de la décision de son directeur, parce que lui, il a 25 ans d'expérience, lui, il a juste 10 ans d'expérience. Donc face à cette frustration-là, il va voir le directeur. Il va voir le directeur pour lui dire ses quatre vérités. Il lui dit, c'est juste injuste ce que tu viens de faire là. Tu viens de le promouvoir lui, alors qu'il a seulement 10 ans d'expérience, alors que moi j'en ai 25. C'est injuste. Puis là le directeur le regarde, puis lui dit, je suis désolé que ça te fasse de la peine. Je suis désolé que tu le prennes comme ça, que tu aies été vexé. Mais ce que tu viens de me dire est inexact. Là, ça vient encore plus frustrer l'enseignant. Il dit, wow, une minute là. Il n'y a rien de plus factuel que ce que je viens de te dire là. J'ai 25 ans d'expérience parce que ça fait 25 ans que j'enseigne. Lui, il a 10 ans d'expérience parce que ça fait 10 ans qu'il enseigne. Et là, le directeur le regarde et lui dit, non, t'as pas 25 ans d'expérience. T'as 25 fois l'expérience d'un an. 25 ans sont passés, mais tu as l'expérience d'une personne qui a juste un an d'expérience. Spirituellement, parfois, ça peut être la même chose. De dire, les années peuvent passer sans que nous devenions pour autant plus matures, sans que nous goûtions de plus en plus les profondeurs de son amour et de sa grâce qui veulent nous révéler. Et c'est pour ça que Jésus t'appelle ce matin à dire avec authenticité à lui, de dire, Seigneur, viens renouveler, viens toucher ma vie, viens me renouveler, j'ai besoin de toi. Parce que Dieu a un vin nouveau dans ce qu'il veut te révéler, dans ce qu'il veut te faire expérimenter, mais aussi dans la manière dont il veut se servir de toi. Moi, ce qui me fascine dans ce texte, c'est que vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est les serviteurs qui ont tout fait. Un miracle incroyable, mais on a l'impression que c'est les serviteurs qui ont tout fait. Ce sont eux qui ont pris les vases, qui sont allés jusqu'au puits, qui ont marché, qui ont travaillé fort pour aller jusqu'au puits, qui ont rempli des centaines de litres d'eau. Ce sont eux qui sont retournés ensuite au mariage. Ce sont également eux qui sont allés les porter à l'organisateur du mariage. D'un point de vue extérieur, c'est eux qui ont tout fait. Jésus, il n'a pas ordonné à l'eau de devenir du vin. Il n'a pas prononcé de formule magique. Il a tout fait. Parce que Jésus, pour son premier miracle, voulait absolument nous communiquer quelque chose. Que la manière dont il va faire avancer son royaume, de la manière dont il va faire avancer sa gloire sur terre, c'est en utilisant des hommes et des femmes ordinaires, mais qui sont disponibles. Des hommes et des femmes ordinaires qui sont disponibles. Les moyens étaient humains, des hommes qui servent, qui vont puiser de l'eau, mais le résultat était divin. Et j'aimerais vous dire que c'est ce que Dieu veut faire. Dieu nous appelle à être la lumière du monde, à briller. Alors qu'on vit dans un monde où en ce moment il y a tellement de découragement, Dieu t'appelle à être un agent d'espoir. Alors qu'on vit dans un monde où il y a tellement de division, Dieu t'appelle à être un agent de paix qui rassemble, à être un agent d'amour, un agent qui est utilisé par lui pour faire avancer son royaume ici sur terre. Et peut-être que face à ce message-là, là, tu dis, Thomas, je suis d'accord, puis c'est la mission de l'Église, on est appelé à être la lumière du monde, pas à se cacher, tout ça, mais en ce moment-là, tu parles de donner l'espoir, c'est moi qui ai besoin d'espoir. En ce moment, tu parles d'encourager les gens, c'est moi qui ai besoin d'être encouragé. Tu parles d'amener la paix. Thomas, tu savais ma vie en ce moment, ma situation familiale, à l'intérieur de moi, j'ai tellement de conflits, même dans mes relations, tellement difficiles. J'aimerais te dire encore une fois une bonne nouvelle, c'est que Jésus ne demande jamais de faire ces choses-là tout seul. C'est toujours avec son aide, c'est toujours avec sa force, c'est toujours avec sa grâce à lui, toujours avec ses forces. Quelques années, j'ai découvert quelque chose qui m'a juste ébloui. Ébloui, c'est le bon terme. J'ai découvert que la lune, qu'on peut voir parfois au coucher de soleil, qui est pleine lune, qui nous éclaire alors qu'elle est à plus de 300 000 km d'ici, qui nous éclaire, qui est juste waouh. J'ai découvert que la lune d'elle-même ne produit aucune lumière. La lumière qu'on voit, à chaque fois, ça ne vient pas de la lune en fait. La lumière qu'on voit sur la lune est simplement le reflet du soleil. La lumière du soleil sur la lune est tellement forte qu'on a l'impression que c'est la lune qui brille. Alors que non, c'est le soleil qui brille. J'aimerais te dire que ce matin, Dieu t'appelle à t'approcher tellement de lui, tellement proche de lui, qu'il va juste te mettre sa lumière sur toi, se déverser en toi, à un tel point que les gens vont te voir aller et vont croire que c'est toi qui brille. Mais toi et moi, on connaîtra la vérité. On sait que la source de lumière ne vient pas de nous, mais de celui qui vit en nous. Quelqu'un a dit, ce n'est pas les hommes forts qui changent le monde, c'est les hommes faibles qui ont cédé à un Dieu fort. Dieu t'appelle à céder à lui ce matin, à venir avec authenticité de dire, Seigneur, viens toucher ma vie, viens faire quelque chose de nouveau dans ma vie, viens me révéler quelque chose de nouveau, viens m'utiliser d'une manière nouvelle, Dieu a infiniment plus pour toi, ne te contente pas du vin d'hier, Jésus a un vin nouveau pour toi. Ce matin, je vais vous inviter à pencher la tête. Puis avant de prier, avant d'aller dans la louange pour un dernier chant, j'aimerais offrir l'opportunité à plusieurs de prendre une décision ce matin. Peut-être tu es là ce matin et tu dis, Thomas, en ce moment-là, c'est moi qui ai besoin d'être renouvelé par Dieu. Ça fait des mois, voire des années que j'ai l'impression que spirituellement je stagne et j'ai besoin d'un renouveau dans ma foi. J'ai besoin d'un renouveau dans ma relation avec Dieu. Je veux avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire. Peut-être que tu es là, peut-être même pour la première fois, et tu dis, cette vie abondante-là, ce Jésus que tu viens de décrire-là, moi, je veux le connaître. Je veux apprendre à le connaître de plus en plus. Et si tu es là ce matin et tu dis, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi et je reconnais que dernièrement, là, je me suis éloigné de toi. J'ai envie de revenir à toi. J'ai envie de revenir à une intimité avec toi. J'ai envie de revenir à une proximité. Seigneur, viens toucher ma vie. Viens me donner un renouveau. Si c'est ton cœur ce matin de manière symbolique, alors tous les yeux sont fermés, je t'inviterai à lever ta main là où t'es là et tu dis, Seigneur, viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie, j'ai besoin d'être visité à nouveau par toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de découvrir encore plus les facettes de ton caractère, de ton amour, les profondeurs de ta grâce. Des mains partout qui se lèvent. Alléluia. Il y en a qui ont des décisions à prendre ce matin. La présence de Dieu est ici. Ne retarde pas cette décision. Dieu t'appelle à t'abandonner à lui totalement ce matin. Totalement, sans compromis, à cœur ouvert. Parce que pour qu'on puisse être rempli par sa présence, nous avons premièrement besoin de venir avec humilité et reconnaître à quel point nous sommes vides, à quel point nous avons besoin de lui. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Merci de ce que tes bontés envers nous ne sont pas épuisées. Merci de ce que tu es venu accomplir à la croix. Merci de ce que tes bontés se renouvellent à chaque matin. Et merci de ce que, peu importe dans quelle saison on peut se trouver, Seigneur Dieu, tu as un vin nouveau pour nous. Seigneur Dieu, tu as des nouvelles facettes de qui tu es que tu veux nous faire découvrir, Seigneur Dieu. Et je te prie, Seigneur Dieu, alors qu'on vient devant toi, en tant qu'Église, en tant que ton peuple, viens toucher nos vies, Seigneur Dieu. Viens réveiller ce qui est mort en nous, Seigneur Dieu. Viens redonner de l'espoir à ceux qui sont découragés ce matin, Seigneur Dieu. Viens remplir de ton esprit Saint-Esprit, ceux qui ont l'impression d'être secs spirituellement. On a besoin de toi, on reconnaît notre besoin de toi. Seigneur Dieu, et viens nous remplir, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse briller pour toi, afin qu'on puisse faire la différence que tu nous appelles à faire et qu'on puisse faire avancer ton royaume, Seigneur Dieu. Parce qu'il n'y a aucune cause qui est plus belle que la tienne, Seigneur Dieu, une cause qui est éternelle, Seigneur Dieu. Merci d'avance pour ce que tu vas accomplir, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde dit... Amen. Yes, on peut applaudir ce Dieu. Je vous invite à vous lever.